Bon vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Il fait quand même soleil ce matin. C'est agréable.
Ah, tu vois ça où, le soleil?
Ah, ben par ma fenêtre. À Mirabel, il y a plus de soleil qu'à Montréal.
Chanceux.
Vous ne rêvez pas, ce n'est pas Sylvain Saint-Don ce matin, c'est bien Robert Brousseau. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça faisait un petit bout que je ne t'avais pas accueilli dans mes studios.
Oui, exactement. T'as repeinturé, c'est très beau.
J'ai repeinturé, ouais, c'est ça, le gros changement. Mais ouais. Ceux qui étaient là mercredi passé, tu sais, faut que je le fasse, évidemment, parce que c'est le petit nouveau, hein. Le petit nouveau, t'es supposé être là ce matin, Antoine, en remplacement de Max. Finalement, ben, il est pas là. Il est en déménagement. Fait que je voulais juste saluer, dernière journée de déménagement, puis on va le retrouver mercredi.
Au lieu d'avoir les trois amigos, vous avez juste les deux amigos.
Ben oui. On va l'avoir pour trois semaines à peu près environ. Puis après ça, on va voir après. On va voir s'il fait une bonne job.
Il est là lundi?
Mercredi, vendredi. Lundi, okay. On n'a plus de show. Ouais.
OK, c'est bon.
Robert, cette semaine, j'avais envie de te recevoir parce que il y a plein de choses de ton côté. Comme je viens de mentionner, ça fait un petit coup qu'on ne s'était pas parlé, puis les choses ont évolué, la saison s'en vient, puis quand la saison s'en vient, ça veut dire que toi, ça fait une couple de semaines, voire des mois que tu travailles à préparer ça. Donc, de quoi tu veux nous parler ce matin?
Essentiellement des tournois et des championnats provinciaux, un peu de tout ça. Tu sais, l'année 2022, pour nous autres, c'est un peu une année ou un retour là, vers des activités très normales. Fait que, tu sais, ouais. On va un peu se calquer à la saison 2019 pour voir qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là. Fait que, tu sais, on revient dans nos bottines, là, finalement.
Parce que les inscriptions sont là, les demandes sont nombreuses. C'est quoi qui fait que c'est un retour en force?
Ben, tu sais, pour faire un bref retour en arrière, là, tu sais, en 2019, on était quand même dans une très, très, très grosse saison, une très grande offre de service là, aux équipes au niveau des tournois. En 2019, c'était l'année où on avait accueilli le plus d'équipes en tournoi de toute l'histoire de la Fédé. Je pense qu'il y avait alentour de 1700 équipes là, qui ont pu aller faire un tournoi en 2019. Puis évidemment, en 2020, il n'y a plus de tournoi. 21, un petit peu timide. Il y a à peu près 750 équipes là, qui ont eu le privilège et la chance d'aller faire un tournoi. Évidemment, ce n'était pas toutes les équipes. L'offre de service faisant en sorte que il y a beaucoup de comités organisateurs face aux mesures sanitaires, puis à la pandémie, ça faisait en sorte que fallait même limiter le nombre de tournois permis par équipe la saison dernière. On se souvient, l'année dernière, les équipes, on les limitait à faire juste un seul tournoi, alors qu'habituellement, ils sont habitués d'en faire deux, voire même trois là, pour les classes A et les classes 2A, et deux tournois pour la classe B. Ben, bonne nouvelle, ben ça, ces mesures-là n'existeront plus. L'offre de service pour la saison 2022 a encore une fois explosé. Fait que si tous les tournois rencontrent leur nombre, on va sortir à l'entour de 1800-1850 équipes là, à aller se présenter dans un tournoi. Fait que déjà là, c'est une très bonne nouvelle. C'était un peu notre préoccupation qu'on avait en début de saison de hausser l'offre de service là, aux équipes là, pour qu'ils puissent aller faire des tournois. Les tournois, là, maintenant, sont déjà, vous pouvez tous les visualiser là, sur le site. Dans la section des compétitions provinciales.
Justement, des changements de règlement, des changements de fonctionnement, y a-tu des changements majeurs, en fait?
Bien, au niveau des règles de jeu, il n'y a vraiment pas grand-chose là, de nouveau. Puis bon, les règles de jeu qui ont tous été adoptées. Je pense que le seul changement au niveau des règles de jeu, c'est celui des bâtons, où on spécifie qu'à partir du 13U classe 2A et aussi le 15U classe A et B, là maintenant, les joueurs sont limités à des bâtons moins 10, mais bon, c'était déjà ce que les joueurs utilisaient. C'est à peu près le seul changement là, qui est table au niveau des règles de jeu là, pour l'ensemble de notre clientèle.
Les tournois, parce que en fait, ma question, je pense qu'elle était plus lancée vers là. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de l'organisation des tournois, au niveau de la préparation des tournois, de l'inscription des tournois, ou si ça reste toute la même chose qu'avant?
Oui, effectivement, là, il y a un point tout de suite sur lequel je veux entretenir les gens. C'est les procédures d'inscription. Donc, ce qu'il faut faire, si vous êtes intéressé à participer à un tournoi, à prendre part à un tournoi, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller consulter la liste des tournois. Vous êtes une équipe 13U, 11U, 18U, vous allez dans la section des tournois sur le site de Baseball Québec, puis vous allez pouvoir visionner l'ensemble des tournois offerts pour votre division et aussi pour votre classe. Fait qu'une fois que vous avez sélectionné votre événement en fonction des dates, en fonction peut-être d'un tournoi que vous avez déjà vous êtes déjà en avant des bonnes choses par rapport à ce tournoi-là, vous contactez directement le tournoi. Vous pouvez lui envoyer un courriel, puis le contacter directement au téléphone. Les coordonnées sont toutes sur la liste des tournois. Puis là, vous prenez contact avec le tournoi, vous assurez qu'il reste de la place, que le tournoi est disposé à prendre votre équipe. Là, vous envoyez votre chèque. Ça confirme votre inscription au tournoi. Une fois que vous êtes confirmé, demande d'autorisation régionale à participer à un tournoi. À ce moment-là, ce que ça fait, c'est que là, vous allez demander ou vous allez avertir votre région que vous allez vous présenter dans un tournoi. Fait que vous allez dans le site des tournois, vous allez trouver une boîte là, qui est très facile à voir. C'est marqué autorisation régionale à participer à un tournoi. Et vous identifiez votre équipe, vous identifiez le tournoi dans lequel vous allez prendre part. Puis une fois que vous envoyez à votre région, puis également le tournoi à laquelle vous prenez part. Puis une fois que la région va avoir répondu, elle va pouvoir vous répondre. Tout se fait de façon automatisée. Vous allez recevoir une réponse. Le tournoi va également recevoir une réponse à l'effet que vous êtes autorisé à participer à un tournoi. Quand la demande est envoyée à la région, en fait, la région, ils vont valider est-ce que le cahier d'équipe est approuvé? Est-ce que les accréditations des entraîneurs, elles sont conformes? Fait que ne vous hâtez pas dans la procédure là, parce que bon, les cahiers d'équipe sont pas encore montés. Fait que l'identité des entraîneurs souvent sont même pas encore dans les cahiers d'équipe. Fait que ouais. Ça sert à rien de faire vos demandes maintenant là, parce que les régions ils ont pas toutes les données puis ils vous répondront pas tout de suite. Puis là, vous allez écrire à la Baseball Québec, vous allez écrire aux régions. Ben comment ça se fait que j'ai pas eu ma réponse? C'est un peu normal. Laissez le temps que les équipes puissent créer, que les puissent apparaître les cahiers d'équipe, les entraîneurs puissent également apparaître. Puis l'autre chose, au niveau de l'accréditation des entraîneurs, ben les mois d'avril et les mois de mai, c'est des gros mois là où il y a beaucoup de stages d'entraîneurs qui se donnent. Fait que attendez là que ça soit fait pour avoir les réponses en fait là, de vos régions.
Trois choses. Premièrement, on vient de mettre le lien pour les tournois juste en dessous de la vidéo. Donc les personnes qui la cherchent, tu sais, il y a tout le temps du nouveau monde à chaque année. Hein? C'est qui fait ces demandes-là? Est-ce que c'est les entraîneurs? Est-ce que c'est les responsables d'équipe? C'est qui fait ces demandes-là aux régions et sur le site?
Effectivement, ça peut être directement même l'association. Ça peut être les directeurs de catégorie ou de division, ou ça peut être l'entraîneur directement. Tu sais, souvent, les tournois qui sont un petit peu plus cotés, on va dire, là, mm-hmm. Ou qui ont une plus grande expérience, ben, tu sais, les places vont s'envoler très rapidement. Puis souvent, si on attend que les créer, ça se peut, on se retrouve à la fin puis qu'il n'y a plus de place nulle part. Fait que l'exercice que font maintenant les associations, c'est que bien souvent, ils vont aller réserver des places à leurs équipes, même si dans le fond, les joueurs ne sont pas encore connus puis les entraîneurs non plus. Fait que une association peut tout à fait faire des demandes de tournois au nom des équipes qu'ils vont avoir durant la saison.
J'ai une question pour un organisateur de tournoi. Les dates, est-ce qu'on peut faire, on fait ça entre certaines dates, puis il dit, hey, nous, on veut un tournoi au mois de mai?
Ben, deux choses. Dans un premier temps, la demande de tournoi, c'est-à-dire que les organisations de tournoi qui veulent présenter un tournoi, normalement, ils ont jusqu'au 1er mars. On se donne une date parce que sinon, ça pourrait être le Capharnaüm. Il y a des gens qui pourraient faire des demandes jusqu'au mois de juin ou au mois de juillet. Donc, c'est le 1er mars qui est la date limite. Mais on est toujours, toujours ouvert à prendre des demandes. On en a encore là, qui vont apparaître sur le site parce que c'est sûr qu'il reste encore de la place. Il y a peut-être des divisions slash des classes qui sont peut-être pas assez bien représentées. Je pense tout de suite aux 15U puis aux 18U où, tu sais, si quelqu'un lève la main puis ils veulent présenter un tournoi, c'est clair là, qu'on va sanctionner parce que tu sais, la façon qu'on fonctionne, on sait à peu près il va y avoir combien d'équipes pour chacune des divisions, chacune des classes en fonction du nombre d'équipes qu'il y avait l'année passée. On aurait intérêt, puis on aurait de la place là, à avoir encore plus d'équipes pour faire en sorte que chacune des équipes puisse faire un, voire même deux tournois, là, puis certaines puissent même en faire trois tournois là, si c'est leur loisir de le faire.
J'ai une demande sur Facebook à propos du festival Rally Cap. Qu'en est-il de la demande de sanctions pour un festival Rally Cap? Est-ce que les festivals Rally Cap doivent être d'envergure régionale seulement?
Bien, au niveau provincial, tu sais, évidemment, dans le Rally Cap, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de règles qui peuvent différer d'une région à l'autre. Puis encore là, tu sais, les règles de Rally Cap vous allez vous ne les retrouverez pas là, dans le livre de Baseball Québec. Donc, à ce moment-là, on pense que ça peut être difficile d'harmoniser tout ça et de faire en sorte que ça soit la même règle pour tout le monde. On retrouve là, du 9 au 18 U. Avec ça, bien souvent, ça va être régional, voire même, on peut même se mettre deux régions ensemble, mais évidemment, de faire ça provincial avec la panoplie de règlements qu'on peut retrouver d'une région à l'autre, ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça que vous ne les retrouvez pas là, sur le site de Baseball Québec. Mais oui, il peut y avoir des événements qui peuvent se faire de façon régionale, là, tout à fait.
Tu voulais me parler de statistiques. Est-ce que statistiques, c'est en rapport au tournoi ou est-ce que tu as mieux allé au niveau du système d'émulation?
Bien, en fait, deux choses. Je parlais un petit peu tantôt là, au niveau du nombre d'équipes et du nombre de places qui vont être créées. Ce qu'on veut remettre sur la map un peu, c'est ce qu'on avait, les plus vieux tournois s'en souviennent, là, on avait un système de pour nommer même un tournoi de l'année. Je vous avertis tout de suite, là, on veut pas aller dans cette direction-là, mais on voudrait apposer des sauts de qualité à nos tournois. Donc, pour faire ça, évidemment, faut aller moi, faut recevoir les évaluations que les équipes servir de ça là, pour genre donner un saut à un tournoi pour dire ben toi tu es un tournoi 1 étoile, toi tu es un tournoi 2 étoiles, toi tu es un tournoi 3 étoiles, un peu comme les étoiles Michelin pour les restaurants ou pour les hôtels.
Les hôtels.
Puis donner peut-être des incitatifs ou une plus-value à ces événements-là, d'une part parce que on veut avoir de la qualité dans nos tournois, puis on veut ceux qui vont offrir de la qualité, une plus-value ou quelque chose de supplémentaire à donner à ces tournois-là, est-ce que ça peut être sur le fait qu'ils peuvent charger peut-être même un peu plus cher aux équipes participantes, est-ce que ça peut être en diminuant la ristourne de ces tournois-là, est-ce que ça peut être d'aller faire un podcast live là, pendant un tournoi par rapport, c'est-à-dire en faisant un tirage parmi par exemple tous les tournois 3 étoiles. Fait que là, on est en train de regarder les avantages, les incitatifs qu'on pourra regarder exactement là, qu'est-ce qu'on veut évaluer. Donc, quelle va être la portion que les équipes vont pouvoir donner là, comme émulation, puis quelle portion va pouvoir être donnée par un superviseur là, nommé par la région là, pour aller faire le tour des tournois, puis aller prendre note là, des bons puis des moins bons coups là, que chacun des tournois peut faire.
Qu'est-ce qui fait que vous mettez ça en place, un système d'émulation, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ouais, beaucoup d'efforts, beaucoup de monde, de l'argent, ça demande, tu sais, tu fais pas ça pour le... Je veux pas dire... Tu le fais pour le plaisir, évidemment, mais c'est quelque chose qui est exigeant. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des tournois qui sont, je veux dire, peut-être que j'exagère un peu, mais qui sont de mauvaise qualité? Pourquoi qu'il y aurait des étoiles 1 sur 3? Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez mis sur 3 au lieu de sur 5? Parce que c'est pas si pire. Tu sais, c'est juste que...
Ben, tu sais, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer avec le temps, là. C'est sûr qu'un tournoi, peut-être qu'on va considérer que c'est peut-être pas... Mais tu sais, on veut chercher à ce que les tournois s'améliorent, puis l'évaluation, puis ça, c'est une préoccupation que les tournois ont depuis très, très longtemps. Là, tu sais, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils font de bien puis qu'est-ce qu'ils font de moins bien, parce qu'ils veulent s'améliorer, puis c'est tout à fait normal, puis on veut les inciter à aller dans cette direction-là. Fait que de recevoir des commentaires de la part des équipes, en fait, là, c'est qu'on veut automatiser tout ça. Là. Les équipes, une fois qu'ils vont avoir pris part à un tournoi, ils recevraient un courriel automatisé provenant de Sportal ou provenant d'une fonction XYZ. Puis, on va leur permettre là, d'évaluer, genre avec un Google Form, là, d'évaluer le tournoi à partir de critères là, qu'on va se donner, puis donner une note là, de 1 à 10 là, pour chacun des critères. Puis, pas quelque chose de trop compliqué, là. 5-6 questions le maximum. Ça, les tournois, je pense qu'ils veulent avoir ça là, parce qu'ils veulent s'améliorer. Ils veulent offrir un très bon produit là, à leur clientèle. Fait que, puis nous, c'est ce qu'on veut. Là. On veut pas que ça soit contraignant pour les tournois. On veut juste que ça soit simple, facile, puis qu'ils puissent tirer des bons coups là, de cette évaluation-là.
Mais c'est ça. C'est vraiment pour monter la qualité. Puis de montrer aux gens si vous pouvez faire ça mieux et non dire il est tellement mauvais ton tournoi que t'en fais plus.
Ouais, ben si on arrive à des situations où tu sais, après X nombre d'années, un tournoi il est juste 1 étoile, ben tu sais, là, va peut-être falloir y voir, puis il va falloir qu'on se donne des mécanismes à ce moment-là pour pouvoir les pousser là, vers l'excellence. Là, parce que tu sais, tout le monde vise d'aller plus haut. Fait que nous, on va les pousser, là, ces gens-là. Parce que peut-être qu'ils ont peut-être moins d'organisation, ils ont peut-être peu d'expérience. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut aller vous donner un coup de main? Est-ce qu'on peut faire là, pour vous aider là, à...
Non, mais parce que j'allais dire, des fois, il y a peut-être une région qui sont à 3 étoiles sur 3, puis juste à côté, il y a 1 étoile sur 3, puis peut-être qu'éventuellement, la région à 3 sur 3, puis donner un coup de main à la région à côté. Tu sais.
Exact.
Hey, voici, on va vous aider. Là. Tu sais, on est capable de monter à 2 étoiles.
Exactement. Fait qu'on est là-dedans, on est dans le processus là, de ce système-là qu'on aimerait bien voir prendre place là, pour la saison 2022, ce qui fera en sorte que pour la saison 2023, donc en 2022, on va évaluer les tournois à partir des équipes, à partir des évaluations qu'on va faire. Puis en 2023, ben déjà là, il y a des tournois qui pourraient se voir affichés avec des étoiles, puis avec des privilèges là, qui vont avec. Fait que nous, on voit ça d'un bon œil.
Est-ce que les autres fédérations fonctionnent comme ça? Est-ce que tu as parlé à d'autres fédérations pour un peu amener ce système-là ou comment ça a fonctionné?
En fait, on avait déjà ça auparavant, mais on n'allait pas nécessairement faire une évaluation. Puis même dans notre comité de travail, là, les gens sont d'avis que ce qui les motive et ce qui les préoccupe, c'est d'avoir le feedback des équipes. Bien plus que d'un Jean-François ou d'un Robert qui est représenté dans un tournoi puis qui irait avec sa petite feuille puis faire évaluer eux autres. Oui, ça, c'est peut-être important, mais est-ce que les équipes, est-ce que les joueurs vont apprécier leur expérience? Ça les préoccupe, puis ça, ils veulent avoir ce feedback-là. Donc, tu sais, en intégrant l'évaluation que les équipes vont faire, bien ça, je pense qu'on fait le tour, là, puis on va être en mesure là, de qualitatiser, je sais pas si le mot est le bon, là, mais on va pouvoir mettre un saut là, à chacun des tournois.
Excellent. Il y a Fred Lanoux sur Facebook qui demande si le classique Claude Raymond deviendra un événement PBR un jour. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça.
Comme mon deuxième sujet, qui sont les championnats, les compétitions provinciales. Puis je vais y aller chronologiquement. Parce qu'on a une grosse saison avec un paquet d'événements qui va débuter en juillet. Donc, effectivement, la classique Claude Raymond qui est du 7 au 10 juillet à Saint-Jean-sur-Richelieu dans un format qui est relativement différent là, par rapport aux saisons dernières. On se souvient que depuis que la classique existe, ça a toujours été pour la clientèle du 15U. Donc, les joueurs de 15U étaient sélectionnés, étaient évalués par des évaluateurs au niveau des trois ligues 2A au Québec. Puis, il y avait une sélection de ces joueurs-là. On les amenait à la classique. Sauf que avec l'arrivée cette année du 15U 3A, bien là, il fallait revoir un peu notre classique parce que, en fait, la classique va être le tremplin. Donc, de faire déjà ça, de faire la classique, de la maintenir à 15U, je pense que là, ça faisait plus son sens. Donc, c'est pour ça qu'on la ramène à 14 ans. Donc, 14 ans seulement pour la classique. Puis là, bon, évidemment, dans les dernières années, bon, en 2020, il n'y en a pas eu. Puis en 2021, il y a eu le retour de la classique. Mais bon, on n'avait pas les équipes de l'arrière. On souhaite beaucoup là, que la classique soit ce qu'elle était auparavant, avec aussi là, des équipes de l'extérieur, plus à peu près 90 joueurs là, du Québec dans le 14 ans et moins, par contre, là, par rapport aux saisons précédentes. Est-ce que ça va devenir un événement PBR? Ça, l'avenir va nous le dire. Je ne suis pas habilité à répondre à cette question-là.
Est-ce que tu peux me parler des changements à la classique Claude Raymond? Parce qu'il y en a eu quand même plusieurs. Je pense qu'il va y avoir des filles aussi qui vont être à la classique. C'est quoi les autres changements qu'il y a?
Ton ami Sylvain pourrait plus t'en dire là, au niveau de l'équipe des filles. Oui, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas de confirmation ou je voudrais pas m'avancer sur un terrain dont je connais pas les réponses.
Excellent. On a fait le tour des forces, du retour en force des tournois, des inscriptions. Le système d'émulation, statistique, est-ce qu'on oublie quelque chose là, à propos de ce qui s'en vient pour moi?
Bien, le message que j'aurais à dire aux équipes, aux associations, tardez pas trop. Oui, c'est possible qu'il y ait des tournois qui vont s'ajouter, mais je vous dirais que 90% des tournois qui vont se faire sont déjà sur le site. Puis le message aussi que je vais relancer aux tournois, c'est que essayez d'aller mettre à jour le plus rapidement possible les inscriptions au tournoi parce que bon sur le site des tournois là, vous pouvez voir le nombre d'équipes déjà inscrites au nombre d'équipes totales qui peut être l'évolution là, des places et de faire en sorte que il ne faut pas trop tarder là, pour aller inscrire vos équipes parce que vous pourrez vous retrouver avec une moins bonne sélection, voire même pas avoir l'opportunité de faire plus de tournois que vous voudriez le faire. Fait que tardez pas trop.
Juste avant de quitter, parce que je pense qu'on a des petits problèmes techniques, là, ça lag beaucoup, mais quelque chose qui a rapport avec les tournois, mais pas rapport avec ton rôle présentement. Tu as été arbitre, tu as joué sûrement quand tu étais plus jeune. As-tu un moment de tournoi, toi, que tu te rappelles, quand ça, c'était le fun, ou tu sais, un moment, même, comme je t'ai dit, que ce soit arbitre ou joueur, là, quand tu étais TQ, là, qui te rappelle des bons moments?
Je pourrais dire que j'ai déjà arbitré au tournoi, à l'époque, c'était le tournoi Midget, parce que ça s'appelait comme ça. J'avais arbitré au tournoi Midget de Pointe-aux-Trembles, puis mon fils évoluait à Pointe-aux-Trembles, puis je l'avais arbitré dans le cadre d'un tournoi. Les entraîneurs de l'autre côté, hey, on est très contents, là, puis tu sais, on sait bien là, qu'il n'y aura pas de parti pris, puis bon, Dieu merci, ça a bien été, puis c'est l'équipe de Boucherville qui a gagné finalement. Mais sinon, mon expérience à titre de joueur, parce que oui, j'ai joué au baseball, mais je me souviens même pas si on a fait un tournoi dans ma carrière. Fait que j'en ai fait à titre de superviseur, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de championnats, mais à titre de joueur, j'en ai pas fait. J'en ai fait, je pense, celui de Pointe-aux-Trembles. Je pense que c'est le seul tournoi là, que j'avais fait parce que, bon, c'était dans ma région, puis je commençais à cette époque-là. J'avais 2 années d'expérience, peut-être. Là. Donc, ça fait quand même très longtemps.
Je ne voulais pas aller là, je t'ai laissé y aller.
C'est quand même très longtemps. Puis honnêtement, il n'y a pas de problématique qu'est-ce qu'un papa arbitre son fils. Fait que faut faire notre travail quand même.
Oui, absolument. Là. Puis je vois pas l'avantage là, à un moment donné de pas être crédible dans son travail comme arbitre parce que son enfant est au marbre. T'sais.
Ben non, puis là, en plus, si tu joues cette game-là, c'est ta réputation là, qui va en prendre un coup.
Exact. Hey, merci Robert. Ça faisait trop longtemps là, qu'on s'était pas vu, on se reprend. Hey. Aussitôt que tu as de quoi à dire, tu me dis Jeff, je suis là telle journée, puis on se book ça.
Excellent.
Un gros merci, Robert.
Membre de la famille H2O Web Media.